Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Si vous êtes sur le site, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le chat. C'est la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. J'en ai pas oublié, Seb au micro, on est ensemble pour une heure et je partage le micro ce soir avec Fabien. Ça va Fabien ?
Salut Seb, salut tout le monde. Nickel, tout
et va ben, bien. On est bien parti. Voilà, donc ce soir on va parler de manga, un peu de manga, on va parler d'école, on va parler aussi peut-être de licorne, de trucs comme ça. On va voir enfin comment on arrive à articuler tout ça, mais on devrait plutôt bien s'amuser.
Ouais, ça va être cool.
Toi tu nous as préparé un gros dossier ?
Oui, alors oui, c'est vrai que j'ai préparé un petit truc qui va changer des petites chroniques que je faisais habituellement.
Ok, tu veux attaquer ?
Ouais, c'est parti, je suis chaud.
Je te mets ton générique et on y va.
Nani ?
お前はもう死んでいる。
Alors oui, du coup, comme je disais, aujourd'hui ça va être un petit peu différent. Je vais pas parler d'un titre en particulier, mais plutôt d'un auteur. En fait, je vais faire suite à une sortie du mois dernier, toute nouvelle série de cet auteur-là, donc c'est ce qui s'appelait Knitting Life.
Ouais, un tout petit peu plus devant ton micro.
Excuse-moi, j'ai cru que j'étais devant.
Notez bien, mais un petit peu mieux.
Ok, voilà. C'est mieux là, comme ça.
Ouais, okay, c'est vachement
cool.
Mieux.
Cool. Alors du coup, ouais, je vais parler donc de Tetsuya Tsutsui, qui est donc l'auteur de Knitting Life, qui est sorti en septembre dernier. Donc, je vais pas vous parler tout de suite de cette série-là, mais on va plutôt repartir un peu en arrière pour en apprendre un peu plus sur son auteur. Donc, Tetsuya Tsutsui, c'est un mangaka japonais qui est né en novembre 1979. Et il va débuter sa carrière en 2002 en tant que mangaka indépendant, en publiant ses premières nouvelles en fait via son propre site internet, PN221.
Ok.
Donc, ouais. Au début, il est pas passé par le chemin classique, et on va voir après, encore moins classique que les autres.
Ah, j'ai hâte.
Donc en fait, il va falloir attendre 2004 en fait pour que l'auteur soit remarqué et que sa carrière en fait prenne un nouveau virage. En effet, chose totalement inhabituelle dans le monde de l'édition japonaise et des mangaka, c'est grâce à une toute jeune maison d'édition française à l'époque qui était toute jeune et qui va avoir droit grâce à elle à sa première publication reliée.
Et en fait, d'abord en France,
et du coup l'éditeur c'était Kiun.
Okay.
À l'époque, donc en 2004, donc qui était une jeune maison d'édition, et en fait, Kiun avait découvert son travail donc via son site internet et le premier one shot en fait qu'il avait fait qui s'appelle Dutt Hunt.
Très bien ce truc.
Ouais, très sympa. Et en fait, c'est un one shot parce qu'en fait, il avait fait beaucoup de nouvelles avant, mais ils l'ont découvert comme ça et ils l'ont contacté et c'est comme ça qu'ils se sont mis en relation et qu'ils ont sorti ce titre du coup d'abord en France. Donc chose quand même assez exceptionnel pour l'époque, parce qu'on remonte quand même à 20 ans en arrière. Hein.
Ouais. Donc, d'ailleurs, les éditions Kiun fêtent leurs 20 ans cette année. Hein.
Ouais. Donc on est vraiment au tout départ de Kiun. Donc c'était quand même un gros challenge pour eux. Un gros pari, quoi, de réussir à trouver, sachant qu'on va voir par la suite qu'il a sorti quand même pas mal de séries et qu'il fonctionne plutôt bien, cet auteur-là. Donc du coup, Dutt Hunt, de quoi ça parle en fait? C'est un one-shot qui va nous plonger dans une histoire. On va suivre un jeune délinquant dans l'univers d'un jeu mystérieux online où tous les coups sont permis, avec à la clé 100 000 yens de récompense pour chaque adversaire tué. Donc c'est un one-shot très sympa, super bien rythmé. Après, ce qui est bien, c'est que c'est assez court, donc on prend du plaisir, on s'ennuie pas, et on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer à ce moment-là. Et en fait, l'intérêt de ce petit one-shot-là, c'est de rentrer dans l'univers un peu de Tsutsui. C'est pas l'univers qu'on va suivre par la suite, je trouve qu'il est un peu moins thriller que ce qu'il a pu faire après, mais il a peut-être plus d'action que dans les autres.
C'était pas mal rythmé.
Un peu plus rythmé peut-être que dans ce qu'il a fait par la suite. Donc c'est ce qui permet d'avoir un titre assez sympa et punchy. Et du coup, c'est grâce à ce premier one-shot, donc paru seulement en France, que Tsutsui va attirer l'attention cette fois au Japon d'un grand nom de l'édition qui n'était autre que Square Enix. Donc du coup, grâce à ça, ils ont sorti Dead Cent là-bas. Et après, avec ce nouvel éditeur japonais, il va retourner au Japon du coup pour cette fois être édité là-bas pour son autre série Reset. Donc ce Reset va encore être un one-shot qui va sortir en 2005 au Japon et qu'on va retrouver en France, bien évidemment chez Kiun, en 2006. Donc là, on va être sur un nouveau titre, aussi tourné vers un jeu vidéo, mais cette fois axé sur un côté plus enquête, ce qui va devenir un peu plus prépondérant dans de nombreux de ses futurs titres. On va vraiment avoir l'enquête qui va être centrée souvent dans ces titres. Et donc Reset, là, ça va parler, on va donc être plongé dans un autre jeu en ligne qui s'appelle Dystopia, où d'un coup, il va y avoir une mystérieuse injonction dans ce jeu-là, qui va dire aux joueurs, votre vie est un échec, appuyez sur Reset. Et suite à ça, il va y avoir un grand nombre de suicides qui vont avoir lieu.
Pas cool.
Non, pas cool du tout. Et donc c'est à partir de là que Junsuke Kitajima, un jeune hacker de génie au service du gouvernement, va tenter d'élucider la série de crimes étranges en menant une enquête périlleuse dans le monde du virtuel. Donc là, pareil, Tsutsui nous montre encore tout son talent ici pour réussir à faire une histoire courte, mais bien ficelée. Parce que des fois, c'est vrai qu'un seul tome, ça peut paraître court, mais il arrive malgré tout, je trouve, à mener une enquête intéressante, malgré le fait que ce soit que sur un seul tome.
Et puis, on n'a pas l'impression que ce soit rushé, en fait.
Non, on sent que c'est prévu comme ça dès le départ et que c'est pas fait pour être raccourci. Donc, c'est ça qui est plutôt cool avec lui sur ces séries. De toute façon, on va voir, il n'a jamais fait de très longues séries. Après, une autre série qui va arriver un petit peu plus tard, en parallèle même, en fait, c'est un autre projet qu'il a, qui va sortir aussi entre 2005 et 2006, avec cette fois 3 tomes. Sa première sérialisation réelle, avec du coup Manhole, qu'on va retrouver en France en 2006, et toujours évidemment chez Kiun.
Manhole, pour ceux qui sont pas anglophones, et qui a quand même un sens, c'est les bouches d'égout.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on retrouve sur la couverture du tome 1, la bouche d'égout. Alors cette œuvre-là, attention à pas mettre entre les mains de tout le monde, parce que c'est assez glauque, parce qu'il a un trait qui est très réaliste en plus, Tsutsui, et avec là vraiment certaines cases et certaines scènes qui sont un peu gore. On n'est pas loin un peu de l'horrifique sur certaines planches.
Moi, j'ai trouvé du côté un côté Seven, tu vois.
Ouais, voilà. Ouais, on va retrouver une ambiance glauque à la Seven avec des images bien trash par moment. Mais et du coup, ça va parler d'un virus en fait qui va venir s'inscrire dans la ville et tout ça, qui va faire que ça va sortir par les yeux. Bon, des trucs un peu glauques et tout ça. Et il va y avoir toute une enquête autour de ces 3 tomes-là. Moi, ça fait partie, je crois, de mes séries de Tsutsui que je préfère. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Mais du coup, comme je disais, attention à pas mettre entre les mains de tout le monde. Et du coup, suite à ça, il va faire une petite pause Tsutsui de quelques années, parce qu'on va le retrouver seulement en 2012 après, avec Prophétie, qui là est un titre en 3 tomes. Qu'on va retrouver toujours chez Kiun, où cette fois on va être un peu plus, ça va être un peu plus sociétal. Donc cette fois on va se retrouver plongé dans une enquête où la section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo est complètement sur les dents parce qu'un individu coiffé d'un masque en papier journal poste sur internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires crimes. Le problème, c'est que dès le lendemain, ces prophéties se réalisent à la une des journaux télévisés. Et donc là, du coup, il va falloir trouver quelles sont ses motivations et tout ça. Une course contre la montre avec la police. Mais le pire, c'est qu'entre toute attente, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à y avoir un soutien populaire qui va grandir envers ce personnage. Parce que souvent, toutes les personnes qui sont marginalisées, des employés tyrannisés par sa hiérarchie, ce genre de personnages vont commencer à se retrouver un peu dans les exactions qui se passent. Parce qu'il y a toujours un aspect un peu vengeance dans ce qu'il fait... Paperboy, je crois qu'il s'appelle.
Pas son nom.
Je crois que c'est ça de mémoire. Et donc, et ça va être assez cool à suivre et faire ressortir le côté de la société qui est pas très chouette, quoi. Mais un très très bon thriller.
Et j'en profite pour mettre une petite anecdote au passage. Faut savoir qu'à l'occasion de la sortie du premier tome de Prophétie, la Japan Expo de cette année-là organisait une exposition en partenariat avec Kiun, avec des statues grandeur nature des différents personnages de l'univers de Tsutsui, dont Paperboy.
Je crois que c'est ça, mais c'est de mémoire là.
Donc c'était une expo qui était quand même assez glauque à parcourir, parce qu'il y avait pas mal de trucs en rapport avec Manol, par exemple.
Oui, sachant que Manol, on va en parler un petit peu après. Mais Manol a eu quelques petits soucis au Japon puisqu'il a été censuré.
Ah ouais.
Et on va en reparler parce que c'est un lien avec son autre titre qui arrive juste après, puisque en 2014 il sort Poison City. Donc en fait, ça va être en deux tomes et toujours chez Kiun, où là, il va avoir pour thème la censure au Japon. Parce que du coup, en fait, on est plongé dans une atmosphère très tendue, qui va être gangrénée peu à peu par la censure. La ville de Tokyo se prépare en fait à accueillir les Jeux Olympiques de 2020. Et au milieu de ce contexte difficile, qui n'épargne pas le manga, un jeune auteur voit son titre retiré de la vente. Et donc, à moins d'un an de l'ouverture des JO, le Japon est bien décidé à faire place nette avant de recevoir les athlètes du monde entier. Et une vague de puritanisme exacerbé s'abat sur dans tout le pays. Et donc, du coup, vigilance citoyenne, etc. Donc, tout ce qui est littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, aucun mode d'expression n'est épargné. Et donc, du coup, c'est dans ce climat-là qu'un jeune auteur de 32 ans, Mikio Ibino, il va se lancer un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste. Et du coup, il va se retrouver un peu au milieu de l'œil du cyclone. Et donc là, on va être sur une œuvre qui va être très personnelle. Parce que comme je disais tout à l'heure, lui-même a été censuré pour son titre Manhole, qui a été considéré comme une œuvre nocive et qui a été supprimée des librairies d'une région entière sans que lui-même ou son éditeur ne soit au courant. Il l'a appris par hasard, en fait. Donc ici, on va pas avoir de meurtre ou d'enquête particulière pour ce titre, mais on va ressentir une atmosphère très pesante et oppressante où on sent que la liberté d'expression est remise en cause, en fait. Et c'est une lecture dont on a pas l'habitude avec Tsutsui, mais qui est toujours très bien amenée. On va retrouver cette patte quand même scénaristique, mais aussi visuelle. Et après, cette œuvre-là, on peut la lire de deux manières. Soit on ne sait pas que son œuvre Manhole a été censurée, et là, on va pouvoir voir ça comme une œuvre de fiction sans message particulier, mais on va pouvoir prendre quand même beaucoup de plaisir parce que c'est quand même très bien raconté. Ou alors, on va sentir qu'il est là pour essayer de donner sa vérité, quoi, et d'essayer d'amener le lecteur vers lui pour le défendre. Et on va ressentir quand même dans son écriture une certaine colère et rancœur quand même par rapport à ça.
L'anecdote de la censure, elle n'est pas mentionnée dans l'ouvrage?
Non, pas en tant que tel. Il mentionne comment ça se passe la censure. Vraiment, qu'il regarde un petit peu au pif, il compte le nombre de cases où il y a des scènes gore, il met des post-it, machin. Et donc en fonction du nombre, et ben hop, censuré. Sans voir si ça vient dans l'histoire, sans voir si l'histoire est vraiment... Tu vois, si c'était plus du factuel comme ça, sans chercher à comprendre, que vraiment derrière... Parce que quand on lit Manhole, certes, il y a des scènes qui peuvent être rebutées, mais de là à être censuré, je trouve ça quand même... quand on lit l'œuvre en général, ça convient pas, quoi.
Ok.
Donc du coup, oui, je vois que le temps défile.
Et ça passe tellement vite.
Ça passe trop vite. J'ai pas eu l'habitude de faire encore ce
genre
de chronique.
Non, mais je me fais le gardien de l'horloge.
Ça marche, ok. Et donc du coup, suite à Poison City, qui sort un peu de sa bibliographie ordinaire, c'est en 2017 qu'il va revenir au Japon avec un nouveau thriller, cette fois, qui s'appelle Noise. Où là, on va se retrouver sur une série en trois tomes, et en un milieu différent, puisqu'on va se retrouver en pleine campagne japonaise, vraiment perdu au milieu de nulle part, dans un petit village où en fait, la dépopulation le condamne à disparaître. Mais il y a une lueur d'espoir qui naît, c'est Keita, un agriculteur du coin qui a créé une nouvelle espèce de figue qui fait sensation dans tout le Japon grâce aux recommandations d'une star du web. Du coup, avec la couverture médiatique, l'économie locale repart. Keita espère que ce renouveau permettra de rouvrir l'école, ce qui pourrait convaincre sa femme, partie à la grande ville, de revenir avec sa fille. Mais la paisible bourgade voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'un inconnu à la mine patibulaire, Mutsuo Suzuki. Il dit vouloir travailler comme saisonnier, seulement son attitude bravache et ses mensonges évidents inspirent la méfiance. Les doutes de Keita se confirment quand son meilleur ami lui apprend qu'il a reconnu l'étranger, condamné il y a plusieurs années pour une affaire de harcèlement et de meurtre. C'est un criminel fraîchement sorti de prison. Que faire s'il s'installe dans la région? Petite campagne perdue, tranquille, qui n'ont pas l'habitude de tout ça, quoi. Donc là, on va encore avoir cette atmosphère bien pesante comme il sait bien faire. On va sentir petit à petit la suspicion, la crainte s'insinuer, et avec quelques faits un petit peu particuliers qui vont arriver. Et donc là, du coup, tout de suite, par ce titre-là, il va aborder un thème qui est vraiment très actuel, en fait. Ça va être celui de la justice sociale. C'est vraiment de se dire, les préjugés, est-ce qu'il faut pardonner, est-ce qu'il vaut pas, est-ce qu'ils ont raison d'avoir méfiance ou pas, d'être méfiant. Voilà, il va y avoir tout ça autour, avec une petite enquête qui va amener un tout nouveau policier, en plus, qui arrive dans la région pour superviser tout ça, qui débarque vraiment de la grande ville. Donc, très sympa et très, très chouette comme autre enquête.
Il y a des sujets pas simples à aborder. Hein.
Non, tout à fait. À chaque fois, il aime bien aborder. Il a toujours un petit peu un côté sociétal dans ses œuvres qui est très intéressante et très bien écrit, je trouve. Et ce qui nous amène du coup sur sa toute dernière œuvre, qui est donc sortie en septembre dernier.
Ah, c'est tout neuf.
C'est tout neuf. Et donc, qui sera en deux tomes. Donc, pour l'instant, on a eu le premier. Et qui s'appelle Knitting Life. Et donc, du coup, là, rien à voir. On n'est pas dans un thriller du tout. En tout cas, pas pour le moment. Et on va suivre, en fait, on est en pleine pandémie. Donc, les Japonais sont invités à rester confinés. Pour beaucoup, c'est une épreuve difficile, mais pour Kentaro Komori, modeste employé d'une petite entreprise, c'est l'occasion rêvée de réaliser un plan de longue date, passer le reste de sa vie sans sortir de chez lui. Pour prendre sa retraite anticipée et se retirer du monde, il a économisé et établi un plan au yen près. Après 20 ans de travail comme représentant commercial, Kentaro est épuisé et ne se voit plus que comme un simple rouage d'un système sans pitié. Au fond, ne serait-il pas plus heureux, seul à la maison, en vrai NIT, c'est-à-dire sans emploi, études, ni formation, et surtout sans compte à rendre à quiconque. Du coup, il transforme un studio sans voisinage en cocon ultime. Au milieu de la pièce trône une tente avec son sac de couchage, son ordinateur et son radiateur. Kentaro peut enfin lire, regarder des films ou écouter de la musique à volonté. Mieux, il invente un véritable art de vivre, avec un calcul précis des lessives nécessaires, la préparation de la playlist idéale, l'aménagement d'un coin livraison accessible depuis sa fenêtre sans avoir besoin de sortir, le voilà calé pour au moins deux décennies de tranquillité. C'est du moins ce qu'il s'imagine jusqu'à ce qu'une nouvelle voisine s'installe à côté et qu'un inconnu tente de s'introduire chez lui. Ouais, donc là, ça plante le décor. Alors là, il a vraiment pris la pandémie qu'on a tous vécue comme sujet principal pour vraiment mettre un aspect sur notre société moderne et tout ce que ça inclut. C'est-à-dire qu'au clic près, on peut tout faire de chez soi. Et là, vraiment, il fait ressortir ce côté exacerbé. C'est-à-dire qu'il ne met plus un pied dehors. Il en va même jusqu'à inventer un système pour pouvoir mettre ses déchets par sa fenêtre avec un conduit pour même pas besoin de descendre ses poubelles. Il ne met plus pied dehors de son appartement. Donc, on en est vraiment à un stade,
c'est un stade très poussé.
Donc là, avec cette œuvre, il tacle une nouvelle fois la société moderne, mais avec un angle vraiment décalé, mais avec beaucoup de justesse. Donc, est-ce que vraiment on peut échapper à tous les dangers du monde de cette façon-là? Il semblerait que pas complètement. On verra. Le tome 1 part comme ça, mais il se passe des petites choses à la fin et tout. Donc à voir. C'est qu'en deux tomes, j'ai vraiment hâte de voir le deuxième pour voir où est-ce qu'il va nous amener.
Eh ben.
Donc voilà.
J'ai hâte aussi.
pour les œuvres de Tsutsui, j'ai fait un petit tour d'horizon sur tout ce qui est sorti. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Des histoires très bien écrites, toujours palpitantes et des très beaux dessins aussi. Donc, et pour ma part, à chaque fois qu'une œuvre sort, je l'achète tout de suite pour voir ce que ça va donner.
C'est un excellent auteur. Merci Fabien pour ce tour d'horizon de Tetsuya Tsutsui.
C'est ça, un petit tour d'horizon.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le générique de Mashle. Bling bling blanc blanc blanc. J'ai plus le titre exact.
Alors, le titre des génériques, moi je suis pas bon du tout.
Mais le truc, il a marché comme un fou sur TikTok avec des gens qui font la même chorégraphie que dans le clip. Donc faites-la chez vous. Et surtout, revenez sur le 101.5 de Radio G juste après.
ただ見よう。 www.radio-g.fr.
Et oui, on met un petit peu moins de musique sur le 101.5 de Radio G, puisque Fabien, il parle beaucoup. Hein. Il parle bien, mais il parle beaucoup. T'as un petit peu débordé sur le temps que je t'avais accordé, mais c'est pas grave.
Je vais faire des efforts pour la prochaine fois.
Ça fait partie du jeu. Du coup, moi, je vais moins parler, c'est pas grave. Hein. On va s'organiser comme ça. Moi, j'avais deux choses très différentes. Je vais déjà parler de Joker One Operation, publié chez Pika Edition, avec un scénario de Satoshi Miyagawa et un dessin de Keisuke Goto. Est-ce que tu as entendu parler de ça?
Alors, si c'est celui que je pense, je crois. Et en voyant la couverture, c'est bien ça, puisque ça correspond à peu près au pitch que j'ai en tête.
Ah, est-ce que tu veux le tenter ou non? Je vais y aller.
Vas-y,
tu vas réagir dessus. Imaginez en fait que le Joker soit obligé de s'occuper d'un enfant. Alors le Joker de Batman, hein, et c'est ce qui arrive puisque Batman est tombé dans une cuve de produits chimiques à l'air libre, chose qui se trouve beaucoup trop à Gotham City, et il en est ressorti sous la forme d'un bébé. Et là, le Joker s'est dit, bah tiens, je vais le prendre sous mon aile, lui expliquer comment fonctionne le monde, pour que la vision de la justice qu'a Batman ne fonctionne pas. Et en fait, le truc, c'est qu'on se retrouve à avoir une critique de la société gothamique, gothamite, je suis pas sûr, de tout l'ensemble des structures de Batman à travers, en fait, un Joker qui est incapable de s'occuper d'un enfant correctement, mais qui essaie de le faire bien, et d'un bébé Batman qui fait absolument rien à part ce que fait un bébé. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien, c'est vraiment drôle. On a des moments complètement barrés. On nous dit, qu'il y a des... Il tombe dans une cuve de produits chimiques et il rajeunit. La cuve de produits chimiques, c'était de la crème anti-âge. Peut-être un peu trop efficace. Et en fait, il y a plein de petits trucs qui font aussi écho à notre monde, à nous. Puisque le Joker va avoir beaucoup de mal, par exemple, à trouver une place en crèche. Parce que quand on est un gangster et qu'on a du mal à justifier de nos revenus, ça devient compliqué, en fait, de pouvoir avoir un dossier pour avoir une place en crèche. Et il y a plein de petits gags comme ça. Il y a plein de personnages connus de l'univers de Batman qui vont intervenir là-dedans. Et ça rend le truc vraiment rigolo. Et en plus, le dessin est franchement sympa. On a un côté réaliste, mais avec des passages un petit peu cartoonesques. Parce qu'on va jouer avec le visage et puis toutes les mimiques que peuvent avoir le Joker. Parce qu'il aime bien faire des grimaces, mais aussi les grimaces que peut faire bébé Batman. Et ça marche franchement bien. C'est drôle, on passe pas un mauvais moment. J'ai peur quand même que ça s'essouffle un petit peu sur la longueur, parce que c'est un tome 1. Donc comme ce sont des petites scénettes, des petits sketchs à chaque fois, c'est des petites choses qu'on peut picorer. Mais j'ai peur que la sauce finisse par s'épuiser un petit peu avec le temps.
En tout cas, oui, je feuilletais en même temps que tu parlais. Et en effet, les dessins sont plutôt cool.
Ouais.
Je trouve ça... bien dessiné.
Pour de l'humour, en fait, c'est ça. C'est vraiment bien poussé, quoi.
Et on est dans la catégorie quand même seinen.
Ouais, parce que t'as quand même pas mal de violence, mais je l'ai parcouru avec mes enfants et.
Ah oui, après seinen veut pas forcément toujours dire que
oui,
les enfants
c'est juste
peuvent pas lire,
plus
mais
mature, en fait,
un
en
peu
terme
plus
de
mature
sujet.
En termes de sujet en général. Mais après, là, je pense que c'est plus pour le côté, peut-être, le fait d'être dans le monde de Gotham City, peut-être, qui est un peu dur.
On va avoir deux niveaux de lecture. On va avoir le niveau adulte avec la dure réalité d'élever un enfant en étant un père célibataire. Hein, c'est un peu le cas. C'est le thème central, peut-être, du truc. Et puis, y a des vannes. Donc, les enfants, ça les fait marrer, en fait, de voir des vannes avec Batman qui a décidé de pas dormir et le Joker qui est complètement... défoncé parce qu'il a pas de, il arrive pas à dormir lui non plus et qu'il faudrait peut-être quand même qu'il arrive à braquer des banques pour pouvoir élever le gamin. Et voilà.
Oui, c'est peut-être juste par rapport à ce côté-là.
Ouais.
Méchant Joker, entre guillemets, qu'ils ont mis en seinen. Mais en tout cas, oui, il y a pas de scène ultra violente ou de trucs comme ça. Hein. A priori, là.
Non, il y a pas. Alors, non, je confirme, il y a pas de scène ultra violente. pardon. Du coup, je redonne la référence, c'est One Operation Joker de Keisuke Goto et Satoshi Miyagawa, et c'est publié aux éditions Pika. Je vais vous parler d'un truc un peu bizarre. Si je te montre ça, tu vois quoi déjà tout de suite? Alors, sachant que je lui montre un livre, on est sur une émission qui parle de BD.
Une femme dans une position un peu particulière, un peu cambrée.
Ouais, je te le passe et je vais raconter. Là, c'est un roman. C'est un roman qui s'appelle Over Heaven. Alors, ceux qui ont l'habitude de lire des mangas, ça peut peut-être faire tilt dans leur tête. C'est Nisō Izin qui a écrit ce roman. Et il faut savoir que ce roman, c'est un roman qui se situe dans l'univers de Jojo Bizarre Adventure. Du coup, ça te parle un peu plus, la position bizarre?
Oui, bah oui. Quand j'ai vu que Jojo, j'ai vu la position, j'ai fait d'accord. Je comprends un peu mieux pourquoi, en effet, cette position-là sur la couverture.
Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas habitués, il faut imaginer un univers très masculin, même s'il a tendance à se calmer un petit peu sur les dernières versions, avec des personnages qui sont souvent très musclés et qui ont des poses que vous pouvez retrouver dans les magazines de mode, puisque c'est là son inspiration, en fait. Si vous avez un mannequin qui est là, avec la main sur le front, le dos hyper cambré, et puis... La main qui pendouille, vous pouvez retrouver cette position-là, qui sont des positions naturelles pour les personnages de Jojo Bizarre Adventure. Et de quoi ça parle Over Heaven? Eh ben, Over Heaven, c'est un roman qui est ni plus ni moins que le journal intime de Dio Brando, qui est l'antagoniste principal des premiers arcs de Jojo Bizarre Adventure. Sans vous résumer toute la série, les premiers arcs se concentrent sur la famille Joestar, qui, avec plusieurs générations, va lutter contre un personnage qui est devenu un vampire immortel avec des capacités un peu particulières, les stands, qui sont des espèces de représentations de l'esprit combatif des gens. Et au fil des générations, toute la famille va lutter contre lui. À chaque fois, les personnages s'appellent Joe quelque chose, Joestar, aucun rapport avec... le Joestar du rap, et ça fait des Jojo à chaque fois. Et ce duo est un personnage vraiment très très particulier, puisque c'est un antagoniste qu'il a sur plusieurs générations. Un antagoniste qui a un stand, dont je vous parlais il y a quelques instants, qui s'appelle The World, que vous pouvez entendre lors des petits génériques qu'on a fait pour Fabien. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que on a une version de la psyché de Dio dans les mangas, dans l'animé, qui nous le présente en tant qu'antagoniste. Mais on ne sait pas comment il s'est construit. Pourquoi est-il si méchant, hein? Ceux qui ont la ref, bravo à vous. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce journal intime, ça s'ancre principalement sur un arc spécifique de Jojo Bizarre Adventure, qui est l'arc Stardust Crusader, le plus connu et le plus populaire. Et on voit sa jeunesse, on le voit nous raconter son enfance dans un quartier très défavorisé et avec une forte criminalité, avec une maman plutôt bienveillante mais qu'il trouve complètement stupide parce qu'à force d'être bienveillante, elle se fait marcher dessus, d'un père alcoolique qui le bat lui et sa mère, qu'il n'idolâtre pas mais qu'il considère comme étant plus juste dans ce monde qui n'est pas sympa avec tout le monde. Et on va comprendre sa quête du paradis, puisque c'est un peu le but ultime de Dio, de rejoindre le paradis, quelle que soit la conception du paradis qu'on peut avoir, puisque lui, c'est pas forcément ce qui se passe après la mort, c'est un autre but qu'il va avoir. C'est particulier à lire, puisque c'est rédigé façon journal intime. Donc on a quelqu'un qui couche brut ses pensées avec beaucoup de répétitions. Il reparle beaucoup du paradis, il reparle beaucoup de sa mère qui est stupide, il parle beaucoup de son ami, il fait beaucoup de répétitions, il est assez obnubilé par pas mal d'idées. C'est des chapitres qui sont courts, au plus 3, 4, 5 pages, et on fait des bonds dans le passé et des parallèles sur ce qui se passe au moment où il écrit ces pages, sur les recherches qu'il a. C'est hyper intéressant parce que si on a vu la série ou lu les mangas, on voit à quel moment en fait les pages peuvent avoir été écrites. Et du coup, ça rend ce personnage de méchant qui était déjà très charismatique est très charismatique, hein, je vois pas quoi dire de plus, encore plus charismatique parce qu'on comprend un peu mieux son fonctionnement et on en vient à le trouver encore plus charismatique. Truc de dingue.
Ouais, du coup, ça complète bien la série, pour le coup.
Ouais, c'est vraiment un bon complément à la série. En plus, ce qu'a fait les éditions Delcourt-Tonkam, le roman, il est super beau. Il y a un petit signet, il y a une surjaquette avec un trou. Il y a des illustrations de, j'ai perdu le nom de l'auteur, directement dedans. Ouais, c'est ça. Et ça en rend déjà l'objet ultra agréable. C'est globalement assez facile à lire parce que c'est fluide en termes de narration et puis c'est pas. Mais en même temps, c'est compliqué de rentrer dans la psyché de ce personnage qui est un peu fucké, si je peux utiliser le terme, parce que il a un peu un pète au casque. Mais il est biaisé par son enfance, par l'éducation qu'il a pu avoir. Donc voilà, si vous aimez Jojo Bizarre Adventure, bah vous pouvez forcément aimer ça. Si vous ne connaissez pas Jojo Bizarre Adventure, ça peut être un petit peu compliqué, mais ça reste quand même intéressant et ça peut vous inviter à vouloir aller plus loin et à vous plonger dans la série. Alors attention quand même, je précise, si vous mettez le doigt dans l'engrenage Jojo Bizarre Adventure, c'est plus de 100 tomes qui vont pouvoir s'aligner sur vos étagères si vous reprenez la série du début jusqu'à la fin. Par contre, c'est une aventure qui est vraiment très très intéressante à aller voir, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement parlant. Je trouve que c'est une série qui est vraiment très très dingue en fait.
Oui, je suis d'accord. Après, il y a énormément de fans. Hein. Il y a une commu énorme sur ce titre qui défendent beaucoup Araki.
Et ça, enfin.
Il a créé un monde. Il a créé vraiment un style à lui qui est très particulier.
Et puis il a impacté beaucoup de mangaka aussi. Oui. Parce qu'il a son style de narration a fait bouger les codes, je pense.
Oui, complètement.
Voilà. Un tout petit mot rapidement sur Nezo Izin, qui n'est pas un débutant dans l'affaire, puisqu'il a déjà novelisé, si je peux utiliser le terme, fait des romans en fait adaptés de manga, puisqu'il a adapté Bakemonogatari en version roman. Donc il est habitué à faire ce genre de choses. Je crois qu'il avait fait aussi une version roman de Ergir. Donc okay. Voilà, il aime bien ce genre de choses là et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, surtout en se mettant dans la peau de ce méchant si charismatique et si épique. Jojo Overhaven, c'est disponible aux éditions Delcourt Tonkam. On fait une petite pause. Pardon, une petite pause musicale avec Aldebert, le cartel des cartables. Et on se retrouve juste après avec notre invité au téléphone, Amy Bill, où on parlera de Derrière le portail. A tout de suite sur le 101.5 de Radio G.
Chaque jour de la semaine, accusé au final de n'être que moi-même. Fragile et sans armure, j'ai le cœur battant. Moi qui rase les murs, parcours du combattant. Entre les représailles et les ultimatums, les pseudo-samouraïs, Yakuza de trois pommes. Entendez ma prière sous la lune. Out of my way. Écoutez la colère sous ma plume. Le cœur dans un étau, je suis à leur merci. Les parrains du préau en ont décidé ainsi. Y a pas de raison, je suis juste une cible dans une grôle de prison aux barreaux invisibles. Quand l'espoir s'envole sous le poids des menaces, c'est l'enfance qui s'étiole.
Radio G, www.radio-g.fr.
Vous êtes de retour sur le 100.5 de Radio G. C'est toujours Seb au micro, on est toujours dans la case de Seb et on est en direct avec Amy Bill. Bonsoir Amy.
Bonsoir.
Tu nous entends bien? Nous on t'entend bien.
Oui, très bien. Ouais.
Bonsoir Amy.
Bonsoir.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es là ce soir?
Eh bien, je suis là pour parler de ma nouvelle bande dessinée qui s'intitule « Derrière le portail ».
Une bande dessinée qui est parue il n'y a pas longtemps aux éditions Le Duc.
Oui, le 18 septembre très exactement, donc il y a un peu plus de deux semaines, ouais.
Un petit peu après la rentrée, hein.
Voilà, c'est ça.
Alors, tu es une habituée en fait du milieu scolaire, puisque tu nous as régalé avec « Ma vie d'instit ». Qui a eu 3 tomes, sauf erreur de ma part.
Oui, c'est ça.
Et là, on passe sur quelque chose d'un petit peu différent.
C'est oui.
Plus tellement de l'humour.
Voilà, c'est ça, oui. Je me suis mise la barre un petit peu plus haute que ce que je faisais avant.
Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est ton métier et comment tu en es venue en fait à faire de la BD, très rapidement?
Ouais, donc je suis professeur des écoles depuis 18 ans. Maintenant, je ne suis plus qu'à mi-temps, je suis à l'école le lundi et le mardi, parce que j'ai besoin de temps pour la bande dessinée. Je m'y suis mise en 2015, j'ai commencé par ouvrir un blog et une page Facebook, où je publiais les perles de mes élèves, des anecdotes de maîtresses, sous forme de petites planches. Moi, ça me convenait, je ne voyais pas plus loin, et en fait... Et les enseignants se sont mis à me suivre particulièrement sur les réseaux sociaux et à partager mes dessins, à s'identifier. Donc c'est devenu viral assez rapidement. Et en fait, c'est un éditeur qui m'a contacté pour faire une première bande dessinée. Donc au début, j'ai dit non parce que ça me faisait peur. Il me demandait de faire 144 pages, ça me paraissait énorme comme charge de travail. Puis après, il m'a rassurée en me disant que je pouvais prendre des planches que j'avais déjà publiées en les retravaillant un petit peu et puis mettre quelques inédits, évidemment. Mais donc forcément, ça allégeait la charge de travail. Donc je me suis lancée et puis je ne regrette pas puisque j'ai enchaîné après avec le tome 2 puis le tome 3.
Et comment tu en es venu en fait à vouloir parler, enfin, à arriver au thème de Derrière le portail?
Bah en fait, sur les réseaux sociaux, je suis assez suivie par une majorité d'enseignants. Et donc, j'ai un peu l'étiquette de la maîtresse qui dessine. Et donc, avec cette étiquette, je ne me voyais pas ne pas parler de ce sujet qui est le harcèlement scolaire. C'est quelque chose dont on parle beaucoup pour le secondaire, pour le collège, pour le lycée. Mais en fait, ça commence dès l'école primaire. Donc moi j'ai décidé d'en faire une histoire, donc tout est fictif, hein, tout est inventé, et je donne dedans quelques pistes pour essayer de le combattre, dans les écoles primaires.
Alors, le thème central c'est bien le harcèlement, puisqu'on le voit avec le jeune héros, mais ça va plus largement sur les difficultés en fait d'élever les enfants au quotidien avec le quotidien des adultes.
Exactement. En fait, on se rend compte que il se passe des choses à l'école d'un côté du portail, mais aussi de l'autre côté du portail à la maison. Et l'un a des répercussions sur l'autre, que ce soit ce qui se passe dans la famille, chez les enseignants. C'est tout un circuit plus ou moins fermé qui a des répercussions sur les uns et sur les autres.
Tu dis que c'est inventé, je pense qu'il y a quand même des bases, peut-être dû piocher un petit peu sur du vécu quand même pas mal.
Oui, bien sûr, je me suis inspirée de pas mal de choses que j'ai vécues. Il y a des choses que j'ai un peu exagérées, il y a des choses que j'ai allégées, mais il y a l'inspiration et c'est mon quotidien.
Tu dis qu'il y a des choses qui sont allégées, comment on écrit sur un sujet aussi complexe et difficile que le harcèlement scolaire?
En prenant des scènes de la vie d'école, en fait, parce que le harcèlement, ça peut partir de petites choses anodines, comme un enfant qui se moque d'un autre par rapport à son prénom, par rapport à son attirance physique, des petits vols qui peuvent être commis, des choses qui peuvent paraître anodines, hein, un crayon qui plaît un peu plus à quelqu'un, il choisit de s'en emparer, et puis de fil en aiguille... ça prend des proportions un peu plus importantes et on en arrive à des enfants qui sont mis à l'écart par d'autres. Et en fait, le harcèlement, c'est ça, quoi. C'est un enfant qui est mis à l'écart, qui se fait moquer et qui vit des choses difficiles de manière récurrente. Voilà.
Oui, donc il n'y a pas un harcèlement, en fait, généralisé. Le harcèlement peut prendre beaucoup de facettes et c'est d'autant plus difficile à détecter pour un adulte.
Exactement.
Vas-y.
Oui, non, je voulais dire que les enseignants sont pas des super-héros, donc même si on est attentif, des fois on peut passer à côté, malheureusement. Et ça aussi, je le montre dans ma bande dessinée. Donc après, je fais en sorte que l'équipe prenne les choses à bras le corps et mette en place des systèmes pour arrêter ça. Mais au début, l'équipe enseignante ne voit pas ce qui se passe.
C'est ce que j'allais dire, en fait. Tu montres bien en fait la difficulté de se rendre compte de ce harcèlement qui est un petit peu distillé au départ, et puis de comment mettre en place des solutions pour les arrêter. De mémoire, il y a un personnage qui dit à un moment ça c'est quelque chose auquel on n'a pas été formé, donc c'est encore plus compliqué quand on ne sait pas comment réagir.
Exactement. Bah oui. En fait, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de formation encore. Et alors, ça arrive, hein, il y en a de plus en plus. Puis, il y a des livres aussi pédagogiques qui sortent pour aider les équipes pédagogiques. Mais c'est vrai que dans notre... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai été formée au métier d'enseignante, on parlait pas du tout de ça. Alors, peut-être que c'était moins présent, mais ça, j'en suis pas convaincue. Je pense que le harcèlement scolaire a toujours été là. Mais sauf qu'on en parlait moins, quoi. On le voyait moins.
Oui, c'était pas forcément un sujet sur lequel on allait, on allait aller.
Je
crois que c'est mentionné, mais est-ce que tu t'es fait accompagner par quelqu'un dont c'est la spécialité de lutter contre le harcèlement scolaire dans l'écriture de cet album?
Alors, je me suis pas fait accompagner par quelqu'un, mais par contre, je me suis beaucoup renseignée. J'ai fait un gros travail de recherche, à la fois sur Internet et dans les livres, pour essayer d'en parler le mieux possible.
Moi, je trouve que c'est plutôt réussi. Fabien, est-ce que tu as des questions dessus, toi?
Non, bah moi je ne connaissais pas, donc je découvre.
Oui, c'est vrai que
je découvre le livre. Maintenant, je l'ai parcouru un petit peu, et on peut voir en effet, je trouve, des scènes de quotidien en fait très touchantes, et on sent que derrière ce côté très coloré, il y a quand même une histoire qui a l'air assez difficile, mais tournée dans le sens de pouvoir trouver des solutions et pouvoir apporter quelque chose en fait aux personnes qui sont confrontées à ça. Ce qui peut être quand même actuellement dans le contexte, on entend énormément parler de ça. Je pense que je te l'emprunterai peut-être, parce que ça pourrait peut-être me servir aussi au cas où, puisque ayant des enfants, on ne sait jamais ce qui se passe réellement, en effet, de l'autre côté du portail, même si nous, on ne le voit pas.
Ouais, voilà.
Alors si effectivement, lire l'ouvrage, ça peut donner des pistes, est-ce que toi, Amy, tu aurais d'autres conseils pour prolonger un petit peu la lecture?
Je dirais la discussion. Enfin, franchement, que ce soit dans les familles, dans les écoles ou enfin les enfants eux-mêmes, je crois que parler c'est très important et je le mets à la fin du livre dans mes remerciements. Je m'adresse aux victimes de harcèlement. Il faut pas rester seul en fait. Il faut discuter. Enfin, un enfant, un jeune qui est harcelé, il aura forcément quelqu'un autour de lui à qui il pourra se confier, que ce soit un ami, quelqu'un de sa famille, un enseignant. Dans les établissements du secondaire, ça peut être quelqu'un de la vie scolaire. En fait, il faut pas rester seul. Et après, quand on est parent, on peut essayer de provoquer la discussion, mais c'est vrai que parfois les enfants sont complètement fermés et s'y refusent. Mais voilà, il faut réussir quand même à provoquer le débat, essayer de poser des questions, et puis surtout si on est victime, se confier à quelqu'un, quoi. Il faut pas rester dans son coin.
Ouais, ce qui est pas toujours simple, hein. C'est vrai que dans des situations difficiles, on a tendance souvent à se renfermer sur soi-même plutôt que d'essayer d'aller vaut les autres. Alors que c'est souvent salvateur. Ça va dans les cadres de harcèlement, mais aussi pour les adultes.
Oui, c'est sûr.
On est aussi sur un format beaucoup plus imposant, un format qui, tu nous le disais tout à l'heure, te faisait peut-être un peu peur au début. Ça t'a pris combien de temps, l'écriture de cet album?
Alors, en tout, ça m'a pris 3 ans. Je suis dessus depuis, trois ans. Au début, j'avais prévu de faire une bande dessinée, pas forcément sur le harcèlement scolaire. Je parlais de l'école et de ce qui se passait chez les uns, chez les autres, avec différents points de vue. J'essayais d'avoir des regards croisés. Et en fait, c'est mon éditrice qui m'a dit que ce serait bien de cibler un sujet. Parce que ça partait, selon elle, un peu trop dans tous les sens. Et je pense qu'elle avait raison. Et du coup, en lisant ce que j'avais déjà produit, je me suis dit, mais en fait, c'est le harcèlement scolaire, c'est déjà ce dont je parle. Donc, il faut que j'axe ma BD là-dessus. Et ça, c'est ce qu'a été après mon fil rouge tout au long de l'écriture. Donc, j'ai commencé à dessiner quelques planches avant de savoir comment j'allais terminer mon histoire.
Tu avais déjà une idée de la pagination à ce moment-là ou pas ?
Pas du tout. Quand j'ai signé, c'était plutôt, je partais plutôt pour 160 pages. Puis en fait, j'en ai rajouté 40 de plus parce que j'avais des trucs à dire.
Et ton éditeur t'a suivi go comme ça ou
Oui. Alors, il n'a pas du tout fallu batailler. Franchement, ils ont été adorables. Il y a juste la date de parution qui a été décalée. Au début, c'était prévu pour le mois d'avril 2024. Et finalement, on a décalé au mois de septembre, et ce qui est très bien parce que au moment de la rentrée scolaire, ça a plus de sens, quoi.
C'est clair. Et du coup, l'ouvrage maintenant a presque un mois de vie.
Il a deux semaines et demie, ouais.
Est-ce que t'as déjà des retours de gens qui l'ont lu, qui
Oui, j'ai pas mal de bons retours. Alors des lecteurs. Qui me suivent déjà, donc qui sont, je dirais, déjà conquis par mon travail, mais j'ai aussi des retours de gens qui me connaissaient pas, qui sont assez flatteurs, et ça fait plaisir. Et puis j'ai eu un message particulièrement qui m'a énormément touchée, c'est celui d'une maman qui m'a envoyé une photo de sa fille qui est adolescente, qui lisait la BD. Okay. Elle m'a dit, voilà, ma fille, elle est victime de harcèlement, et elle dévore votre BD, et ça lui fait prendre du recul, et elle se rend compte que qu'elle n'est pas toute seule et qu'il y a des solutions, donc merci. Et donc, quand j'ai lu ça, franchement, j'en avais les larmes aux yeux, je me suis dit, voilà, je sais pourquoi j'ai fait cette BD, en fait.
C'est ça, ça donne du sens à ce,
ouais,
à ce message.
Ouais, carrément, ouais.
On va pas tarder à arriver à la fin de nos 20 minutes. Est-ce que tu veux nous parler de tes futurs projets ?
Pour l'instant, j'ai plusieurs projets en tête, mais rien de signé, donc rien de très concret. Donc ouais, pour l'instant, je préfère pas. Okay. Ce sera pour plus tard.
Pas de problème. Tu démarres une tournée dédicace peut-être ?
Oui, j'ai commencé déjà. J'étais à Montgeoffroy ce livre fin septembre. Le week-end dernier, j'étais dans l'Est à un festival de BD qui s'appelle Bulle en Champagne. je suis le 19 octobre au Cultura de Géant Espace Anjou. Le 26 octobre à la Sadelle. Et après, dans le coin, je fais en GBD.
Eh ben parfait.
Début décembre, voilà.
Que les meilleurs endroits.
Ouais.
Donc ce sera l'occasion pour vous, chers auditeurs, d'aller à la rencontre d'Aimé Bill, de vous faire une petite bafouille, un petit dessin. Puis n'hésitez pas, Aimé ne mange personne.
Non.
Pas à ma connaissance, en tout cas. Mais c'est l'occasion aussi d'échanger, de discuter. Effectivement, si vous avez des enfants qui peuvent lire ce livre, ça pose aucun problème. Hein. C'est pas un livre qui est destiné uniquement aux adultes. Au contraire, faut, à mon avis, le mettre dans le plus de mains possible. Faut quand même lire, parce qu'il y a quand même pas mal de lectures. Mais je pense que même des enfants petits accompagnés peuvent reconnaître soit des situations dans lesquelles ils sont, soit des situations dans lesquelles certains de leurs camarades sont. Et ça peut vous aider, vous, adultes, à alerter les bonnes personnes sur des situations qui ne devraient pas exister.
C'est vrai.
Donc voilà, moi je pense que c'est un excellent outil. Je tiens, moi personnellement, à te remercier de l'avoir fait. Parce que,
merci à toi, Seb.
C'est des choses qui ne sont pas simples, mais qui sont nécessaires, je pense, à lire.
Je pense aussi, ouais. En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais à mon niveau.
Eh ouais. Bon. Eh ben écoute, on te remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec nous.
Merci beaucoup.
Et puis on aura l'occasion de te revoir sur le 101.5 de Radio G pour ta prochaine publication.
avec grand plaisir. Ça marche.
À très bientôt, Émilie.
À bientôt, Seb.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Bon, ben voilà. Une BD voilà qu'il faut absolument lire. J'ai pas fait de chronique à proprement parler parce que je pense que j'en ai dit déjà quand même beaucoup de bien sans mauvais soi. C'est vraiment quelque chose que je trouve nécessaire à lire. Déjà parce que c'est bien écrit, c'est agréable, c'est assez objectif sur la situation et assez documenté pour qu'on puisse s'en servir comme d'un vrai outil. Et je pense que au-delà de l'aspect j'aime pas le terme divertissant de lire une histoire. Il y a vraiment un intérêt à comprendre tout ça.
Oui, j'ai hâte de le ramener à la maison pour le lire et de le faire lire aussi à mes enfants.
Eh ben, écoute,
parce que je pense qu'en effet, comme vous discutiez, vous disiez, il y a des enfants qui ne doivent pas se rendre compte,
ouais,
en fait, des petites choses comme elle disait du quotidien qui peuvent être vécues comme du harcèlement. Et de le voir dans une histoire, ça peut peut-être déclencher de dire ah bah oui, mais alors quand je fais ça, que je le taquine entre guillemets, bah finalement c'est peut-être pas bien quoi.
C'est
et
ça.
Et je pense que c'est en effet ça peut être très très intéressant.
La frontière elle peut être parfois très très fine entre le harcèlement et la taquinade en fait.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Pas évident de rebondir après un sujet comme ça. On va parler très rapidement. je vais arriver, je vais m'étouffer avant la fin de l'émission. D'un ouvrage que j'ai lu. On reste dans l'enfance avec les Licorniers. Publié chez Vent d'Ouest de Victor Dixon et Gloria Marino. Je ne sais pas si ça te parle.
Non, malheureusement, c'est vrai. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas très coutumier de la BD, donc je vais découvrir de plus en plus.
Si ça ne tient pas
choses,
dans une poche, s'il y a de la couleur, ça te va.
J'avoue que je suis un peu mono-manga, entre guillemets, mais c'est bien, ça va m'ouvrir d'autres horizons. Donc c'est ça qui est très intéressant.
Les Licorniers, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va rentrer dans un. C'est pas un orphelinat, c'est un internat parce que son père voyage beaucoup et ne peut pas s'occuper d'elle suite à la disparition de sa maman. Elle qui est un petit peu fantasque, bon en même temps physiquement, elle a hérité des couleurs des cheveux de sa maman et de son papa, à savoir qu'elle est globalement rousse et blonde en même temps, ce qui lui donne un style très particulier. Et elle aime bien les couleurs, elle aime bien, elle est un petit peu exubérante. Sauf que dans cet internat, en fait, tout est uniformisé, standardisé, très très carré. Et en plus, y a plein de gens, on va dire un peu de la haute, ou plutôt fortunés, avec des gens qui ont de l'influence, qui ont des privilèges que d'autres n'auront pas. Et un petit peu lassée, en fait, de cet internat, un soir, elle va tenter une escapade dans les brumes qui entourent l'internat et elle va se retrouver en Fatidie. Fatidie, c'est un pays qui se retrouve entre la dernière seconde de dimanche et la première seconde de lundi. C'est un peu particulier, c'est un peu bizarre comme dit comme ça, mais c'est un vrai monde. Et ce qui se passe, c'est que plus on va vers le centre de ce pays, plus le soleil est et tout le temps à la même hauteur. Elle va se rendre compte que dans ce monde-là, qui est plutôt un monde médiéval, contrairement à son monde moderne qu'elle connaît, il y a une reine qui refuse de dormir. Je crois que c'est la reine Aurore 2, qui fait référence au conte de fées de la Belle au Bois dormant. Il y a beaucoup de références avec contes de fées et aux légendes arthuriennes dans les Licorniers. Il y a une reine qui refuse de dormir, donc il y a tout un tas de stratagèmes pour ne pas dormir, dont des espèces de lunettes qui lui gardent les yeux complètement écarquillés, chose qu'on pourrait voir dans notre film préféré Orange Mécanique, film préféré, enfin un très bon film, mais pas forcément mon préféré. Bref, je m'égare. Et elle va découvrir en fait que dans ce monde-là, les licornes sont tuées et on leur coupe la corne pour pouvoir les donner. On ne sait pas trop à quoi. Et elle va se rendre compte qu'il y a une espèce de guerre qui a été faite entre Viviane la fée, donc des légendes arthuriennes, et la fée Carabosse. Et l'une cherche à restaurer la paix en Fatidie, tandis que l'autre cherche à briser le voile entre Fatidie et notre monde pour pouvoir l'envahir. Et pour lutter contre ça, il faut des licorniers. Il ne faut pas des chevaliers, puisque les, dans ce cadre-là, ce sont des licornes qui sont apprivoisées par des personnes qui vont pouvoir les monter, avoir un lien très fort avec elles et créer un ordre de licornerie, si je peux me permettre, ce terme est un peu particulier, mais ça devient des licornies. C'est drôle, le personnage, l'héroïne est tout de suite très attachante. C'est très sympa graphiquement. Je sais pas ce que toi t'en as pensé
en parcourant là comme ça, je trouve les dessins très chouettes. Ouais.
C'est vraiment.
C'est bien dessiné. Hein.
C'est les couleurs flash, ça marche bien. Il y a un côté, j'aime pas faire ce comparatif parce que c'est toujours tout de suite rerangé dans une case en fait des choses, mais il y a un côté un peu Harry Potter avec cet internat qui recèle peut-être des secrets, peut-être pas parce que dans ce tome 1, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il y a plein de choses, il y a plein de secrets, plein de mystères, plein de magie, et c'est vraiment sympa. Voilà quoi. Je te laisse redonner les références, Fabien.
Ouais. Du coup, c'est Les Licorniers par Victor Dixen et Gloria Marino, et c'est aux éditions Vent d'Ouest.
Parfait. Ben je fais des bêtises et ça marche pas. Non mais vive le direct. That's all, folks. Et oui, le temps passe vite et Fabien parle beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission parce que pour qui vient nous rappeler qu'à un moment il faut quand même qu'on rentre chez nous. On se fait un petit récap de ce dont on a parlé.
Oui, tout à fait.
Alors, on a parlé de Tetsuya Tsutsui avec toute sa bibliographie.
Avec toute sa bibliographie, ouais. Et donc, tout édité aux éditions Kiun. Au moins, c'est simple. Il n'y a pas à se tromper. Et tout est encore disponible. Si je ne dis pas de bêtises, même ses anciennes œuvres, on peut les trouver, je crois.
Et quasiment tout sont des must-have dans une bibliothèque.
Ouais, tout est intéressant. Si vous ne connaissez pas, testez. Et je pense que vous pourriez être conquis.
On a parlé de One Operation Joker de
Satoshi Miyagawa et Keisuke Goto chez Pika Edition.
On a également parlé de Overheaven, le roman
de Jojo's Bizarre Adventure,
je perds mes mots, de Nizo Izin, publié aux éditions Delcourt Tonkam. On a eu le plaisir d'interviewer Amy Bill avec son album Derrière le portail, publié aux éditions Le Duc. Et puis on finit avec Les Licorniers de Victor Dixen et j'arrive pas à tout
Gloria
rappeler de
Marino.
Tête.
J'attendais de voir à quel moment tu te tromperais.
Publié aux éditions Vent d'Ouest.
Oui, c'est ça.
J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a passé un excellent moment sur ce plateau. On se retrouve dans 15 jours pour parler de nouveaux bandes dessinées. La semaine prochaine, de 21h à 22h, dans les voies du scénario pour parler de jeux de rôle. Et à partir de dans 15 jours, j'aurai le plaisir de vous faire pendant 4 semaines, enfin 4 émissions, une interview qui était plusieurs interviews. Il y aura 4 interviews qui seront diffusées à suivre dans 4 émissions, des interviews qui ont été réalisées à Cultissime, des interviews bien cool. Et on va pouvoir en parler puisque ce sont des interviews principalement parlant de BD, mais aussi de manga.
Ça va être cool.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance parce que moi, j'ai appris à lire. Ben, je ne souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfait de ici!
Juste en! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!